Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église. Il y a une semaine, le pape Léon XIV publiait l'exhortation apostolique Dilexite, document d'autant plus attendu que c'était le premier que le Saint-Père faisait paraître depuis son élection en mai dernier. Nous allons revenir sur ce texte et le commenter au cours de cette émission avec mes deux invités du jour. Deux invités donc pour commenter Dilexite. Je suis très heureux d'accueillir sœur Anne Rouquet, membre de la communauté de la Bonne Nouvelle, et le père Gilles Denroc, frère dominicain, théologien, compagnon du groupe Bartimée. Avant que l'on commente le contenu de Dilexite, il me semble bon de rappeler au préalable ce qu'est une exhortation apostolique et notamment en quoi cela diffère d'une encyclique. Frère Gilles.
Alors, une encyclique a le plus de portée et d'autorité avec une visée universelle. Il s'agit, de façon classique, de parler à, j'allais dire, l'humanité tout entière. Et c'est ce degré d'universalité, donc comprenant justement les chrétiens et tout le reste, c'est-à-dire c'est le tout de l'humanité. Tandis qu'une exhortation apostolique, c'est en tant que pape successeur des apôtres, successeur de Pierre, que le pape, en l'occurrence Léon XIV, produit sa première exhortation, vous les chrétiens, je vous exhorte à vivre de la charité.
Je vous encourage à vivre de la charité.
Et non pas seulement une simple lettre portant sur un sujet particulier.
Alors ça, c'est la lettre apostolique.
La lettre.
Troisième type de document.
Voilà.
Vous avez tous les deux lu l'exhortation apostolique Dilexite, qu'on peut traduire en français par « Je t'ai aimé ». Quel en est le thème central et qu'en avez-vous pensé sur la forme et sur le fond?
Moi, personnellement, c'était vraiment une belle surprise. Je rends vraiment grâce au Seigneur parce que pour nous, ça nous rejoint très très fort dans notre vocation. C'est vraiment notre vocation des Sœurs de la Bonne Nouvelle. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une grâce que le pape Léon reprenne ce qui tenait très à cœur au pape François et du coup, en fait, l'approfondisse. Et puis, en plus, ça rejoint donc notre vocation de Sœur de la Bonne Nouvelle à la suite des intuitions du père Joseph Wryzinski, qui déjà, dès les années 1957-60, avait déjà cette intuition que les pauvres devait être premier, avait une pensée, avait quelque chose à apporter au monde. Et c'est vraiment ça qui nous a nourris et avec lesquels nous avons fondé les Sœurs de la Bonne Nouvelle. Et donc, si je cite le pape, voilà, nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, mais dans celui de la révélation. Le contact avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l'histoire. À travers les pauvres, il a encore quelque chose à nous dire. Et ça, pour nous, c'est vraiment ce que nous essayons de vivre. Et je suis aussi émerveillée de voir combien l'Esprit-Saint, en fait, est à l'œuvre dans le monde. Et comment il travaille toujours dans le même sens, en approfondissant toujours plus, à travers le monde. Donc, à travers cette spiritualité du père Joseph Wryzinski, mais aussi la théologie de la libération, enfin, un petit peu partout dans le monde, il y a quelque chose qui va dans le sens d'approfondir cette place des pauvres dans l'Église. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, parce qu'ils sont vraiment partie intégrante de l'Église. Et donc, nous, on peut dire qu'on peut faire nôtre tout ce que dit le pape, là. Pour nous, c'est vraiment une mine de vraiment plein de choses, et en particulier tout ce qu'il dit à partir de la Bible, enfin tout ce déploiement de tout un panorama biblique, historique, qui montre vraiment le choix des pauvres dans la Bible et dans l'Église, par les pères de l'Église, par tous ces saints et ces saintes qui nous ont précédés. Et puis c'est vraiment une mine de tas de textes et de tas de vies qui sont vraiment à méditer, à contempler, à vivre. Et c'est ce que nous essayons de vivre à travers notre règle de vie et aussi à transmettre. Parce que vraiment autour de nous, je crois que tous ceux qui cherchent, qui désirent s'engager auprès des pauvres, etc., je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très important de les aussi enraciner dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Et après, dans tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement.
Oui, alors vous avez abordé déjà quelques notions sur lesquelles nous devrons revenir, la bienfaisance, la théologie de la libération. Je vais passer maintenant la parole au frère Gilles. Bon, le thème central de cette exhortation apostolique, c'est l'amour du Christ envers les pauvres, avant tout.
L'amour du Christ, je dirais même aussi l'amour créateur de Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et s'est déployé dans l'histoire, effectivement. Mais ce qui me semble important et surtout lumineux et même peut-être libérateur dans le contexte général de l'humanité aujourd'hui, cette lettre signée un jour de la fête de Saint François d'Assise, nous permet d'ouvrir un chemin de lumière de confiance grâce au pape Léon XIV. C'est-à-dire qu'il faut souligner le fait que sa première exhortation apostolique est un texte discours-programme, un programme de son pontificat. C'est pour cela que c'est très important d'avoir une espèce de lumière dans le flou actuel de la transition entre le pape François, que certains estimaient trop ceci ou pas assez cela, peu importe. Et là, maintenant, un chemin s'ouvre qui montre à la fois la continuité, certes, mais je dirais aussi l'appropriation de cet axe, de ce chemin pour son pontificat par le pape Léon XIV, que nous ne connaissions pas auparavant. Ou peu, ou très peu.
Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient quant à ce qu'allait être son action, bien sûr, mais aussi les grandes orientations de son pontificat. Et pour vous, là, c'est beaucoup plus clair.
Alors, pour moi, je fais référence justement à la première exhortation du pape François, la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était très précis par rapport à la continuité avec le pape Benoît XVI. On se demandait comment était-il possible de continuer ? Il y a ce problème entre tous les papes, dans la succession des papes, il y a à discerner ce que l'Esprit-Saint dit à l'Église à travers ces successions qui se poursuivent. On avait déjà vu que le pape Benoît XVI allait recentrer sur l'intériorité, sur la théologie, une papauté qui allait dans tous les sens du pape Jean-Paul II, qui ouvrait des tas de chemins et des tas d'espaces à l'Église, alors que maintenant, le pape François, lui, a représenté quelque chose de très fort, qui est un nécessaire réveil d'une sorte de torpeur de l'Église, surtout de l'Église européenne. Ça, c'est la façon dont je vois les choses. Comme Sœur Anne, nous avons vécu dans des pays et des continents différents de l'Europe et on se rend compte qu'on focalise sur des problèmes qui ne sont plus les problèmes du monde dans son ensemble. Je pense que tu es d'accord. Hein. Et là-dessus, c'est très important de voir que le pape François, le premier pape non-européen de l'histoire, a apporté une espèce de choc nécessaire pour que nous ne soyons pas des endormis de l'Évangile, mais des acteurs de l'Évangile, donnant justement la place d'acteurs à tous ceux que nous rencontrons au nom du Christ. Et je pense que là, le pape Léon XIV a pris ce sillon, mais en même temps le situe dans une sorte de durée, et c'est la durée qui apaise, on sait où on va, on est beaucoup plus clair sur cela, et donc il prend l'enseignement du pape François, et il le dit d'ailleurs, c'est indiqué tout au début.
Mais même dans le titre d'une certaine manière, puisque Dilexit Nos, c'était l'écrit du pape François, qui datait je crois de novembre 2024, quelque chose comme ça, donc quelques mois avant sa mort, et là c'est Dilexit Te.
Oui, mais attention, justement, et là, on voit rupture et continuité, continuité et nouveauté.
Hein.
Le pape François, c'est une forme de, si vous voulez, qui a été reçue par certains comme une provocation, alors qu'il est au cœur des choses, le pape François, au cœur d'une Église mondiale, au cœur des problèmes d'aujourd'hui. Et en même temps, il nous a fallu écouter, recevoir, digérer un peu son enseignement. et le fait qu'il a réalisé dans son enseignement, dans sa conduite comme pape de l'Église, il a vraiment effectué ce qu'il avait annoncé dans sa première exhortation. Et du coup, nous pouvons nous dire la première exhortation du pape Léon XIV, c'est son programme qu'il va continuer à mettre en œuvre. Donc, c'est une sorte d'apaisement qui nous est proposé. Ne vous battez pas sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Restez centré sur l'essentiel. Et allons-y. Et l'essentiel, c'est effectivement que Dieu, qui est le premier sujet de dilexit nos, c'est Dieu qui a aimé, c'est au passé. Et ça, c'est très important aussi. C'est une sécurité dans la continuité de l'histoire. Voilà un fait majeur qui nous est proposé jusqu'à la fin de l'histoire. Ne vous affolez pas. Continuez le sillon. Donc, il a aimé nous, pour traduire directement, et il t'aime. Donc c'est une adresse beaucoup plus directe, même si elle vient effectivement du pape François qui a commencé ce texte. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la façon dont le pape Léon XIV s'approprie ce début de texte, s'approprie tout l'enseignement du pape François et, en quelque sorte, le pose dans la tradition avec un grand T de l'Église. Ce n'est pas un courant, c'est la tradition de l'Église. Ce que disait Sœur Anne, depuis tout ce flot dans l'histoire de la charité qui arrive jusqu'à nous.
Je parlais de la forme de cette exhortation apostolique. Il y a 5 chapitres et je voudrais bien que vous nous disiez à quoi chacun d'entre eux est consacré. Donc ils ont des titres. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Le premier chapitre, c'est quelques paroles indispensables. De quelles paroles parle-t-on?
Cri des pauvres, entre autres.
Oui, alors le cri des pauvres, c'est un des sous-titres du chapitre 1. Il y a Saint François, on revient à Saint François, non pas le pape, mais Saint François d'Assise. Le cri des pauvres, et le dernier, c'est préjugés idéologiques.
Oui, moi je pense que vraiment, là, le pape Léon nous cite le texte du pape François. C'est-à-dire, il forme une synthèse de ce que le pape François voulait nous dire. Donc, le chapitre premier, moi, je vois la plume, la plume
donc, il repart
reprise. Et c'est très important aussi de voir ce qu'il cite, le pape Léon XIV. C'est-à-dire, il y a une espèce de choix pour en proposer une synthèse. Donc ça, nous avons la synthèse de l'enseignement. Enfin, moi, je le lis comme ça. Synthèse de l'enseignement du pape François, reprise. Et c'est très beau de voir comment il s'accroche sur quelque chose qui existe. Et c'est ça aussi la tradition dans
moi,
l'Église.
Moi, ce que j'ai compris, c'est quelques paroles indispensables, c'est qu'un, il n'y a aucune parole, aucun geste d'amour qui soit insignifiant. Aucun. Ils sont tous signifiants. Oui. Et qu'on ne peut pas aimer le Christ en séparant cet amour de l'amour pour les pauvres. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce que je retiens de ce chapitre.
Ben, c'est l'essentiel de l'enseignement
du
pape François.
Oui, et puis être à l'écoute des cris des pauvres. Et que dès le démarrage, dès l'Exode,
sans préjugés idéologiques,
Dieu a dit « J'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu son cri et je suis descendu pour le sauver. » Mais c'est quand même quelque chose, voilà, ça montre un visage de Dieu qui n'est pas seul dans son ciel, là-haut, et qui est dans la compassion, qui fait attention à son peuple, qui fait attention à ceux qui sont le plus enfoncés, qui ont le moins, justement, de place dans le monde, parce qu'on ne les écoute pas. Et là, on dit bien, dès le départ, que Dieu écoute leurs cris, et que nous avons donc à écouter leurs cris.
Et c'est un peu prolongé par le deuxième chapitre, puisque le deuxième chapitre, c'est « Dieu choisit les pauvres ».
Mais oui, justement, mais il y a cette partie du premier chapitre qui est très importante, c'est les préjugés idéologiques, comme vous avez dit. Et dans les préjugés idéologiques, j'essaye de voir, moi je citerai 2 paragraphes, mais qui donnent le ton pour tout le reste. La définition du pauvre, au paragraphe 13, et ça c'est très intéressant. On voit là, c'est une petite touche du pape Léon XIV, parce qu'il cite un texte qui n'est pas un texte de l'Église. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il montre à l'Église qu'il faut aussi entendre la façon dont on parle des pauvres. Comment on va les définir? Parce que dans l'Église, on a une vision spiritualisée du pauvre, comme disait Sœur Anne, alors que c'est quelqu'un qui crie. C'est même des groupes qui crient. Ce n'est pas le cri seulement isolé. Alors voilà la définition qu'il donne au paragraphe 13, si vous permettez. On entend par pauvre les individus, familles et les groupes de personnes dont les ressources matérielles, culturelles et sociales sont si faibles qu'ils sont exclus des modes de vie minimaux. Définition du Conseil de l'Europe à la fin du XXe siècle. Donc on a une définition qui nous apporte un regard spécifique et on n'est plus dans les préjugés justement. Oh, nous sommes tous pauvres, voilà. Et c'est cette généralisation dans l'Église qui fait qu'on est obligé de revenir au sillon principal.
Et puis, je compléterai en disant que les fausses idées qu'on se fait des pauvres, c'est-à-dire, c'est eux qui sont responsables de leur pauvreté. Alors le pape dit en 14, nous ne pouvons pas dire que la majorité des pauvres le sont parce qu'ils n'auraient pas acquis de mérite, entre guillemets. Hein? C'est de leur faute s'ils sont comme ça. C'est pas... Et du coup, les pauvres le ressentent très fort, ça. Parce que pour eux, ben oui, c'est de ma faute si je suis comme ça. Et donc, ils s'enfoncent toujours plus et ils s'enfoncent dans la culpabilisation. Or, justement, le pape dit attention, et c'est pas ça du tout.
Alors, je vais donner les titres des autres chapitres. Donc, le deuxième chapitre, c'est Dieu choisit les pauvres. Le troisième chapitre, une église pour les pauvres. Le quatrième, une histoire qui continue. Et je pense que ça renvoie évidemment à l'histoire de l'Église avec les pauvres. Et puis le chapitre 5, un défi permanent. Alors qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ça? On ne va pas tous les commenter, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous semble vraiment le plus important dans l'ensemble de ces quatre autres chapitres?
Alors ce que disait sœur Anne, à savoir que si ça s'ancre dans la tradition avec un grand T de l'Église jusqu'à nous, ça s'enracine dans la Bible. Donc c'est effectivement le deuxième chapitre. La Bible peut être lue comme la façon dont Dieu choisit les pauvres. Et ceci est beaucoup plus clair dans l'Évangile avec la venue du Christ, du Messie, qui vient justement pour qu'une bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Et enfin, c'est tout ce que le mot miséricorde
intègre,
c'est-à-dire comment la misère est un lieu de mort et comment la miséricorde, c'est-à-dire mettre de l'amour là où il n'y en a pas, est la seule façon de sauver et que nous sommes une religion du salut, une foi dans un sauveur. Et ensuite, à partir de là, s'ancrant sur l'ensemble de la Bible, on a toute l'histoire de l'Église jusqu'à nous qui est une histoire de la charité qui sauve, non pas de la charité justement éthérée, une contemplation qui se déconnecterait des racines de la rencontre avec le pauvre, et c'est cela qui fait la trame, le tissu fondamental de l'Église. Donc on a les chapitres 2, 3 qui arrivent jusque-là, et comment depuis Léon XIII, c'est le troisième chapitre, donc à partir du moment où la pauvreté prend des formes modernes et contemporaines, comment cela va continuer? Et ça se termine effectivement par le défi de la rencontre et le défi de tout ce qui se met en œuvre aujourd'hui dans l'écoute, la rencontre, le rassemblement et l'éducation de tous les chrétiens, pas seulement de ceux qui, comme les Sœurs de la Bonne Nouvelle ou comme le groupe Bartimée, est un groupe en relation, mais c'est l'ensemble de l'Église qui est transformée par cette rencontre. Voilà ce que je pourrais être l'essentiel. Alors,
on va développer tous ces points en seconde partie d'émission. En attendant, nous allons faire une pause musicale avant de reprendre nos échanges autour de Dilexité, l'exhortation apostolique récemment publiée par le pape Léon XIV. Je vous propose d'écouter le Sanctus de la messe romane de Thierry Esquèche, un compositeur contemporain qui a des racines dans l'Ariège du côté de Saint-Giron où on nous écoute. C'est une version enregistrée par le chœur Dulci Jubilo, un ensemble basé, lui, à Montauban, encore dans notre région, fondé et dirigé par Christopher Gibert. Le chœur est accompagné à l'orgue par Thomas Hospital.
plaisance.
Vivante Église, Éric Dupri.
Retour au direct, nous allons poursuivre ce numéro de Vivante Église consacré à Dilexité, l'exhortation apostolique qu'a fait paraître le pape Léon XIV il y a 2 semaines. Pour en parler, j'ai invité Anne Rouquet, sœur Anne, membre de la communauté de la Bonne Nouvelle, et le père Gilles Danroc, frère dominicain, théologien, compagnon du groupe Bartimée. Si l'on essaie de synthétiser les thèmes forts de ce texte, le premier publié donc par Léon XIV, est-ce qu'on y trouve déjà, selon vous, et vous avez un peu répondu à cette question en première partie, est-ce qu'on y trouve ce que devraient être les grandes orientations et les principaux chantiers de son pontificat, ou faut-il attendre encore un peu pour qu'il précise ce que va être son action? Est-ce qu'il faut attendre d'autres textes, notamment sa première encyclique? Frère Gilles.
Alors je crois que c'est un discours programme, comme on dit, c'est-à-dire une annonce, un peu comme Jésus avec le serment sur la montagne, il annonce tout l'évangile. Et puis là, il y a effectivement des étapes. Alors les étapes, c'est un peu aussi sa personnalité qu'il a déjà affirmée depuis le tout début de son pontificat, depuis ses premières prises de parole, depuis aussi la devise qu'il a cherchée, qu'il nous propose comme un programme. Il recherche un chemin d'unité par rapport à des tensions qui sont apparues un peu en marge de ce sillon principal qui a été réorienté à sa façon par le pape François. Donc, ce que j'ai appelé un peu ce qui a été perçu comme une provocation, il veut le prolonger en pacification, en réconciliation de ceux qui se sont trouvés, hélas, bouleversés, mais qui peuvent revenir dans le principal. C'est-à-dire, ne vous battez pas sur les côtés, restez dans l'axe fondamental qui est le sillon de la charité.
Donc si on dit, à tort ou à raison, que le pape François avait un côté provocateur et que Léon XIV aura un côté beaucoup plus apaisant, est-ce qu'on est dans le vrai ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça tout de même?
C'est plus complexe que ça parce qu'il garde justement l'élan, le même élan, et il le vit aussi. Ce n'est pas le pape François qui l'a fait, parce qu'il l'a fait cardinal, qui aurait fait sa personnalité. C'est un membre d'une communauté, d'un ordre religieux, avec toute cette charité puisée dans saint Augustin. Il y a 2 paragraphes d'ailleurs dans l'exhortation concernant saint Augustin, qui sont fondateurs, qui sont très importants. Et en même temps, il est missionnaire au Pérou, il a visité toutes les communautés dans les 5 continents, comme nous avons connu Haïti, et nous avons connu aussi les Philippines, d'autres. Et ça, c'est formateur, et ça, il le porte en lui-même. Oui. Donc, nous sommes avec les papes François et Léon, dans une église qui, depuis le Concile Vatican II, a compris qu'elle était une église universelle, mondiale,
dans le monde,
pas européenne, dans sa culture. Et il faut que donc l'immense culture magnifique chrétienne de l'Europe, de la Méditerranée, du Moyen-Orient, soit maintenant au service de la culture du monde, au service du plus important du message de Jésus-Christ, du message de l'Évangile.
Et ça, pour vous, c'est clairement affirmé par le pape Léon dans cette exhortation apostolique?
Absolument. C'est indiqué, on voit déjà presque, les prochaines étapes. Par exemple, il nous dit la véritable, je vais même essayer de le citer, par exemple, l'Église n'est pas pleinement l'épouse du Christ si elle n'est pas également la sœur des plus pauvres. On a toute une ecclésiologie, j'allais dire, l'Église, qu'est-ce qu'elle dit d'elle-même? Comment elle se comprend elle-même? On a souvent aussi, on ne peut pas avoir d'un côté un culte parfait et en même temps oublier les pauvres. C'est la conjonction des deux qui fait l'expression de la liturgie, l'expression de l'Eucharistie, l'expression de la vie chrétienne. C'est pas en séparant et en oubliant, l'un oublierait l'autre. Les engagés ne seraient pas des priants et les priants ne seraient pas des engagés. Non, c'est réunir ça. On voit très bien que là, on a déjà les étapes de son pontificat.
Oui, donc quand je parle de grandes orientations, elles y sont tout de même et clairement affirmées, je reprends le terme que j'ai employé tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a aussi parmi les idées essentielles, moi, que je vois dans cette exhortation apostolique du pape Léon, je discerne une critique sans appel des inégalités sociales. Ça, c'est peut-être un message politique, chacun le prendra comme il veut, mais pour lui, il faut lutter d'urgence contre ça. Sœur Anne, ça, c'est quelque chose que vous avez dû relever qui doit vous toucher profondément.
Oui, c'est certain que c'est primordial de ne pas enfermer les pauvres dans ce qu'on appelle l'assistance, dans une espèce de... Oui, de les considérer comme des objets de charité, oui. J'allais dire, hein, alors que, justement, ils sont, d'une part, ils sont nos frères et nos sœurs, et ils ont vraiment quelque chose à nous apprendre, et ils ont aussi une pensée sur, à partir de ce qu'ils vivent, de toutes leurs difficultés.
Une pensée sur leur situation.
Sur leur situation, à partir de cette situation de misère où ils sont enfoncés, eh bien, en fait, on se dit, il faut les sortir de là, donc voilà. Et en fait, ils ont vraiment une pensée, ils ont quelque chose à dire aux autres, et Dieu se révèle à travers eux. Et donc, je pense que le pape fait beaucoup ressortir ça aussi, hein, qu'on doit être à leur écoute, on doit les aider à dire aussi ce qu'ils ont, ce que Dieu leur
met. Et être conscient de leurs ressources aussi. Je pense que vous parlez pas d'assistanat. Vous avez employé le terme de bienfaisance là, en début de l'émission. Oui. Il me semble que le pape Léon XIV rejette cette notion de bienfaisance. Il ne veut pas entendre parler d'assistanat. Voilà. Il veut aussi qu'on soit bien conscient que les pauvres ont leurs propres ressources et que c'est à l'exploitation de ces ressources qu'il faut les aider.
C'est ça.
Il ne veut pas qu'on voit dans le pauvre quelqu'un qui nous donnerait bonne conscience lorsqu'on se contente de l'aider ou soi-disant l'aider.
C'est ça. Alors en même temps, moi c'est ce qui m'a frappé quand même aussi, c'est qu'il insiste pour dire que l'aumône doit quand même exister quelque part. Mais c'est la façon de la faire, cette aumône. Parce que, il dit, d'abord, au démarrage, il faut aider les gens à retrouver un travail, à avoir un travail, à reprendre leur vie en main, etc. Mais si ils peuvent pas y arriver, parce que les circonstances, parce que tout ne peut pas, eh bien, il faut quand même leur donner le minimum vital. Ce n'est pas possible autrement. Mais il y a une façon de le faire qui est dans l'amour, et dans le respect, et dans le respect de la dignité de la personne, que j'ai offert en face de moi à une personne, et pas à quelqu'un qui m'aide à aller au ciel, ou à je sais pas quoi.
Il ne faut pas les abandonner à leur sort, bien sûr, mais il ne faut pas qu'ils se résignent à leur sort.
Et non plus, il ne faut pas qu'ils se résignent à leur sort, donc il faut les aider à prendre leur vie en main, et à se rendre compte qu'ils ont réellement quelque chose à nous apporter, et donc être à leur écoute, puis qu'ils sentent que moi aussi j'ai envie d'apprendre quelque chose d'eux.
Ça veut dire leur rendre leur dignité, tout simplement. Oui. Alors, frère Gilles, sur cet aspect.
Oui, je pense qu'il y a aussi la critique de ce qui conduit à la misère et à la pauvreté, c'est-à-dire les structures de péché. La formule vient du pape Saint Jean-Paul II. C'est une formule qui n'est pas encore entrée dans la conception générale que les chrétiens ont de leur vie de baptisé.
Vous pensez qu'elle n'a pas été comprise ou qu'elle n'a pas été intégrée?
Non, ce n'est pas encore tout à fait intégré, ça ne fait pas partie...
C'est périphérique, ce n'est pas quelque chose de fondamental.
C'est peut-être une option, c'est peut-être un éclairage particulier, mais ce n'est pas fondamental. Alors, ce qui me semble important, c'est de dire ce que disait sœur Anne au tout début, la critique de la bienfaisance, c'est la critique si on en reste... à la bienfaisance,
oui,
c'est-à-dire si on comprend que la vie du baptisé, la vie du chrétien, la vie de l'Église consiste à organiser la bienfaisance. Or, ceci est la situation d'où nous venons. Donc, dans la chaire Jean Rodin, dont je fais partie, on a la théologie de la charité. On voit bien qu'il y a eu une période où la charité était comprise justement simplement comme la bienfaisance ou l'aumône des élites, des plus riches, qui se penchaient sur les plus pauvres. Or, en 2016, d'ailleurs, où des membres du groupe Bartimée, je pense qu'aussi les Sœurs de la Bonne Nouvelle, ont rencontré le pape François et ont demandé une mission, la mission des plus pauvres, il leur a dit « Vous avez la mission de prier pour les riches ». Et ça a pris du temps aussi, là.
Il leur a dit, c'est vous seul dans votre pauvreté qui pourrez réaliser cette mission.
Voilà. Et donc...
C'est une parole très forte, ça.
C'est une parole très forte, parce que... Et justement, ce qui a été dit, nous ne sommes pas dans la bienveillance, la bienfaisance simple, comme un climat général. Nous sommes dans la révélation. Nous ne sommes pas dans le domaine à option ou des gens qui ont le cœur sensible, comme on dit en créole haïtien, le cœur sensible, voilà, charitable, comme on dit. On est dans la tradition. Et c'est ça, la révélation de Dieu pour nous, pour notre salut, c'est « je t'ai aimé ». C'est un fait, j'ai entendu le cri des pauvres, moi, Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Et si tu continues à rester dans un climat global de bienfaisance, eh bien tu vas laisser faire ce qui se passe et qui produit l'inégalité. Une inégalité qui est devenue mondiale, avec toutes les formes que cela peut prendre, depuis par exemple les sécheresses du réchauffement climatique, jusqu'à des mesures d'austérité ou d'investissement dans l'intelligence artificielle ou dans tout ce qui fait des milliardaires quelque part. Elon Musk est trimilliardième, je ne sais pas quoi,
oui,
il
enfin,
3 milliards de
Il faut se méfier de tous les
oui,
chiffres
non, enfin,
parce que ce sont des valorisations, ce n'est pas ce qu'il a sur son compte en banque.
Oui, non, non, j'entends, non, non, j'entends, mais c'est ce qui fait que...
C'est ce qu'on nous dit en tout cas,
ce
sont les
chiffres
qui circulent
voilà,
et
voilà.
Que les gens accueillent comme
voilà.
Ça.
Voilà, et donc on voit bien que l'actuelle marche de la technique et de l'argent, aujourd'hui, produit ces inégalités de plus en plus nombreuses, de plus en plus massives. Alors voilà, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a une critique de cela que porte l'Église. Pourquoi et comment ? Parce qu'elle est en relation étroite de proximité avec les plus pauvres. Et c'est par ce contact, cette vie avec, que l'on peut voir à quel point les structures de péché conduisent à ces inégalités. Et comment, justement, les pauvres ne sont pas des pauvres intrinsèquement, ce sont des appauvris dans les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et pas seulement dans les pays pauvres, mais en France même, où la pauvreté grandit, d'une certaine manière, selon la définition qui a été donnée par l'Europe elle-même en 1984. Vous voyez, et voilà, c'est tout ça qui est en jeu, et je suis tout à fait d'accord avec Sœur Anne, c'est effectivement faire passer les plus pauvres, pas seulement le pauvre comme une figure un peu idéalisée, mais faire passer les pauvres de victimes, d'une certaine manière, de ces injustices, à acteurs de l'espérance devant nous. C'est-à-dire qu'ils nous disent « on ne peut pas continuer comme ça ». Ils nous disent « mais enfin, on peut vivre autrement et autre chose quand vous voyez, vous écoutez le pourquoi de cette quantité d'échecs qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là ». Et dans cette quantité d'échecs, et c'est ça que j'ai retrouvé autant en Haïti qu'à Bartimé, dans la banlieue de Toulouse, j'ai retrouvé cette parole forte « si je suis vivant, c'est grâce à Dieu ». C'est-à-dire qu'au plus bas de l'échelle, quand tout s'effondre, il reste un socle sur lequel notre espérance commune peut rebondir en vie. « Je suis vivant, c'est grâce à Dieu ». C'est ce niveau le plus basique de la vie qui est rappelé, alors que la vie quotidienne, la vie de nos pays, la vie de nos cultures, de nos sociétés, on est préoccupé de mille autres choses qui nous empêchent d'être à ce socle-là où je suis vivant grâce à Dieu. Et ça, c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est la révélation. C'est pas option, c'est pas un, voilà, c'est pas une mode, c'est pas un engouement, c'est pas un courant. C'est la réalité de la révélation du Dieu de Jésus-Christ.
Sœur Anne, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire le frère Gilles ?
Je pense qu'il y a aussi la lutte contre les injustices,
les inégalités,
voilà, et que ça peut aussi devenir une idéologie, etc. Et que, comme il dit, il faut vraiment que ça soit enraciné dans le partage de vie avec les gens. Et c'est ça qui est important.
Pas seulement
un
discours,
le pape le dit beaucoup,
un beau
ça
discours.
Aussi. Hein. Il dit il faut ceux qui ne se contentent pas de leur rendre visite de temps en temps, mais qui vivent avec eux et comme eux. C'est une option qui doit trouver sa place parmi les formes les plus élevées de la vie évangélique. Et je crois, et c'est très important parce que nous, on se rend bien compte, les personnes qui essayent de travailler avec nous, des choses comme ça, le jour où elles rencontrent réellement, chair et en os, des personnes qui vivent cette misère, cette difficulté, etc., il y a quelque chose en eux qui change et qui leur fait comprendre quelque chose. Mais tant que ça reste au niveau de la tête, ça passe pas au cœur, et bon, voilà, oui, on est d'accord avec les principes, les idées, tout ça, mais tant qu'on n'a pas rencontré réellement quelqu'un, en chair et en os, qui vit ça, mais ça peut être quelquefois simplement par une lecture, hein, d'un témoignage de quelqu'un qui témoigne de sa vie de misère et comment justement sa foi le porte. Parce que ça, ce que dit frère Gilles, c'est très vrai aussi. Les gens, combien ils nous disent, mais ce qui me tient, c'est parce que j'ai la foi, c'est le Seigneur qui est là. Et c'est lui qui tous les jours m'aide à tenir et me permet, et le rendre grâce tous les jours. Enfin, ben aujourd'hui j'ai trouvé à quoi manger, etc. Voilà. Même si c'est par un témoignage, mais quelque chose de très concret, de très vécu, c'est ça qui peut faire qu'on s'engage vraiment et qu'on arrive à aimer et pas seulement être dans l'idéologie. Et voilà.
Pour conclure, bon, si je vous ai bien compris tous les deux, vous considérez que cette exhortation d'illexité est un texte très important qu'un chrétien se doit de connaître. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, en quelques mots, pour les convaincre qu'il faut absolument lire ce texte, sœur Anne?
Alors, je pense que ce texte est quand même long. Mais par contre, je dirais que toute la partie en particulier où il cite des textes de la parole de Dieu, où il cite des personnes qui se sont engagées et qui ont fait quelque chose avec les pauvres, où il cite les pères de l'Église, chaque paragraphe pourrait mériter que ben on passe un temps dessus, qu'on se dise ben on va prier là-dessus sur ce texte-là, sur celui-ci, sur cette personne qui a donné sa vie pour voilà. Je pense que rien que ça, ça pourrait être déjà tout un chemin qui peut s'ouvrir pour beaucoup.
Frère Gilles, alors quelques mots rapidement.
Ben moi je dirais que ce texte, finalement pas si long, une trentaine de pages à quatre quand on le
oui, ça paraît pas insurmontable.
C'est un texte qui fera du bien à tout le monde. Parce que c'est un texte clair, lumineux, une écriture simple et chaque fois profonde qui nous renvoie à notre être chrétien le plus profond. Et ça, c'est effectivement une jubilation. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi d'en discuter avec ses plus proches. C'était vraiment un des lieux, un des textes qui nous permet de nous rencontrer entre chrétiens. Et au lieu de parler du temps qui fait et de la météo, on pourrait quand même parler de ce choix fondamental et prioritaire que nous avons de rencontrer. Et à partir de la rencontre, de rassembler pour que eux-mêmes puissent devenir acteurs de leur propre rassemblement et par là créer des liens nouveaux qui vont à partir du terrain, à partir, je pense, aussi des paroisses, à partir de la réalité quotidienne de la vie chrétienne, de trouver une joie profonde à vivre.
Sorane, pour
je
terminer.
Voudrais signaler que ce sera bientôt la 9e journée mondiale des pauvres, le 16 novembre, et que donc ça peut être vraiment une occasion pour les uns et les autres, les paroisses, de se centrer un petit peu, de mettre le nez dans cette exhortation. Et de toute façon, rien que le message que le Saint-Père a fait pour cette journée, il est déjà extraordinaire, il va dans le même sens, et il ne fait que 2-3-4 pages, voilà. Donc déjà, on peut se centrer sur ce texte-là, et puis ensuite, c'est sûr, le dilexité.
Sur l'exhortation elle-même.
Voilà,
l'exhortation. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir bien voulu commenter dilexité, la première exhortation apostolique qu'a fait paraître le pape Léon XIV. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions sur ce texte. Je signale à nos auditeurs qui peuvent se le procurer très facilement, puisqu'il a été publié par plusieurs maisons d'édition en France. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la réalisation Coraline Camebrac. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. ou par mail à contact@radioprésence.com.